Vous travaillez dans l'audiovisuel? Alors ce podcast est fait pour vous.
Tu ne sais pas ce que tu veux.
Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot.
Je suis Jonathan Elalouf et vous écoutez Au Générique, le podcast qui parle de tous les métiers de la création audiovisuelle.
Si la production vous dit non, vous dites le metteur en scène a dit oui.
Un mardi sur deux, je donne la parole à un ou une professionnelle pour vous faire découvrir de manière authentique son parcours, ses anecdotes et son métier.
Et il y avait six loups derrière moi, enchaînés, on excitait bien au fond là-bas. Tapés sur les casseroles, les loups tiraient sur les chaînes et ils me donnaient un 3-2-1 action Mélissa, je commençais à courir, puis un 3-2-1 action pour les loups. Et là, je me suis dit putain de sa mère.
Ce podcast vous est présenté par l'ITShare, plateforme de location de matériel audiovisuel. Où que vous soyez, retrouvez tous les équipements dont vous avez besoin sur l'ITShare.com.
Je pense que la France est un pays où tu ne fais pas de cascadeur si tu n'es pas passionné.
Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela nous aide énormément. Bonne écoute.
Moteur ! Oh putain, moteur !
Bonjour Mélissa, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de t'avoir parmi nous pour cette première saison de Générique. Tu es cascadeuse depuis plusieurs années et l'on peut dire que ta filmographie a de quoi faire rêver. Du haut de tes 33 ans, on décompte déjà plus d'une cinquantaine de films et séries télévisées. Alors on peut citer entre autres The French Dispatch de Wes Anderson, Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal dans lequel tu doubles Leila Bekti aux côtés de Benoît Poulvord et Pio Marmaille, Titan de Julia Ducournau, ainsi que plusieurs séries comme Treadstone diffusées sur Amazon Prime ou Germinal que l'on peut retrouver sur Salto. Bon, bah, ta carrière est déjà très impressionnante.
Merci.
Et avant de se lancer dans le vif du sujet, je sais qu'on a beaucoup de chance de t'avoir et que ça ne s'est pas joué à beaucoup parce que tu pars dans quelques jours, la semaine prochaine même, sur un nouveau tournage pour une très longue période. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
C'était imprévu. On m'a appelé il y a 2 semaines pour me dire « J'aurai quelques semaines de boulot pour ton anniversaire, est-ce que ça te tente ?» J'ai dit « Ouais, cool, voilà, c'est combien de temps ?» Et on me dit « Bah, c'est 36 semaines. » Du coup, voilà, je refais un sac et puis je m'en vais.
C'est énorme, 36 semaines. C'est pour quel type de projet? C'est une série, un film?
C'est une série Disney+. C'est une saison 2, il me semble. Je double la comédienne principale, donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur toute la période, tout le long du tournage, quoi.
C'est ce qu'on disait juste avant en off, c'est assez exceptionnel de partir sur 36 semaines. Tu m'expliquais qu'en France, en général, en tant que cascadeuse, ça va plutôt être des missions de courte durée. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça?
Ouais, la France, c'est vraiment quelques jours par-ci, par-là. C'est très rare qu'on soit sur l'intégralité d'un projet, ça n'arrive jamais même en fait. On est parfois, si on a beaucoup de chance, en doublant les comédiens principaux, on va avoir des missions de peut-être 2 semaines, 2 semaines et demie, rarement plus. Donc voilà, c'est vraiment des missions ponctuelles. On va être appelé pour quelques jours de répétition, si on a de la chance, puis quelques jours de tournage très éparpillés par-ci par-là. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'action en France. Donc on confine tout dans un petit bloc de journée et puis on met tout là, toute la cascade ici. C'est bon, ce sera jeudi après-midi. Voilà, merci, au revoir.
Donc ça va être une expérience incroyable. C'est quoi justement qui t'a donné envie d'être cascadeuse?
C'est un rêve de gosse, ça c'est sûr. J'avais à l'époque, en finissant ma formation de circassienne, je voulais rentrer dans une école de cascade. Il n'y en avait qu'une à l'époque en France et mes parents ne pouvaient pas l'offrir en fait. Du coup, ils m'ont dit bah, « tu vas faire autre chose ». Et puis, ça m'est toujours resté un peu en tête. Et puis, des années plus tard, je me suis dit, bah, tiens, maintenant, je suis une grande fille et je peux me l'offrir moi-même. Donc, je vais peut-être aller faire ça, en fait.
Et tu es passée par des métiers à droite, à gauche. Et du coup, c'est à quel âge, grosso modo, que tu t'es dit, OK, on y va?
Je devais avoir 26 ans. J'étais déjà vieille par rapport à l'ensemble des gens qui se lancent là-dedans. Il y a beaucoup de jeunes majeurs, 18, 19 ans, c'est un peu à la mode, hein, cascadeur. Donc tout le monde sort du bac et puis se jette dans la cascade, quoi.
Ouais, bah, ça ne m'étonne pas. Bon, après, tu as fait bonne école parce que tu as fait une école de cirque avant, donc j'imagine que ça doit quand même bien te préparer, tu ne viens pas de nulle part.
Ouais, ça donne beaucoup de bases, une bonne base physique, des repères dans l'espace. On a une conscience du corps qui est quand même bien éveillée. J'avais jamais fait d'arts martiaux, moi. Je savais même pas la différence entre le judo et le karaté, donc voilà. Mais du coup, j'ai appris sur le tas et je me suis lancée là-dedans, dans les arts martiaux, les sports de combat, la tête la première.
Ça doit être assez violent au démarrage. Il me semble que tu as fait le campus Univers Cascade. qui est basé en région Hauts-de-France. C'est l'un des plus gros campus pour devenir cascadeur, si je ne dis pas de bêtises.
C'est la plus grosse formation en Europe de cascadeurs, ouais. Si c'est pour dire au monde, peut-être, parce que c'est gigantesque. Maintenant, ce sont des infrastructures énormes. Moi, je l'ai fait quand c'était encore un petit campus dans le sud de la France, du côté d'Agen et tout. Mais aujourd'hui, l'infrastructure, c'est des Américains, en fait. C'est incroyable.
Toi, tu interviens là-bas comme professeur, comme intervenante?
J'ai fait quelques stages, ouais. Quelques stages. Alors, j'ai pas fait les sessions longues, mais j'ai fait un stage ou deux de week-end où on fait de l'intensif, en fait, pendant un samedi, dimanche, 8 heures par jour, que du combat ou que du parcours ou que de l'acrobatie, voilà, qui sont des stages ciblés.
Ok. Et du coup, justement, comment on rentre dans cette école?
Il faut avoir envie. Il faut avoir très envie. Il n'y a pas de sélection en tant que telle. L'école propose un stage de découverte de 10 jours, enfin de 15 jours. Et puis, si ça vous plaît, ensuite, vous pouvez faire la formation longue. Donc, prendre un forfait pour une formation longue. Et en fait, c'est très bien organisé parce que ce sont des stages de 2 semaines pendant chaque vacances scolaires. Donc, on a 2 semaines intensives et puis on a 2 mois pour s'entraîner à côté, continuer d'avancer pour nous et on retourne un autre 2 semaines intensives et ainsi de suite, tout ça pendant 2 ans. Donc c'est une formation de 10 stages de 2 semaines.
Ok.
Si on l'a fini. Ça n'a pas été mon cas.
Ah bon?
J'ai pas fini parce que j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance de commencer à travailler très vite.
Ok, c'était justement ma question suivante. J'allais te demander, à la fin de cette formation, comment on arrive sur son premier tournage? C'est comment ça s'est passé pour toi?
Alors, c'est un peu particulier pour moi parce que, encore une fois, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été entourée des bonnes personnes et je suis partie au bout d'un an en Angleterre avec un membre des Yamakasi qui s'appelle Malik Diouf et qui a sa compagnie anglaise, qui a monté aussi une école de parcours. Et Malik m'a débauchée et m'a dit « Est-ce que tu veux venir en Angleterre pendant une durée indéterminée pour faire des shows de parcours, d'acrobatie et tout avec nous ?» Donc pour moi, c'était incroyable. J'ai dit « Génial, oui, bien sûr, absolument. » Et en même temps, j'ai eu la proposition du campus. Alors, le campus Univers Cascade a une filiale, une petite boîte de prod de spectacle, enfin une petite grosse boîte de prod de spectacle maintenant, qui s'appelle le Stone Show Event et qui fait des missions, des shows un peu, des représentations partout en France et à l'étranger de temps en temps. Et vraiment, ça s'est fait à 2 jours d'intervalle. Le directeur du campus m'a demandé d'intégrer le Stunt Show Event. C'était à l'époque, pour moi, c'était l'Eldorado. C'était mon objectif ultime. On rentre dans l'élite du CUC. C'était incroyable. Et du coup, j'ai accepté les 2 missions. Et j'ai jonglé entre les 2 pendant au moins 1 an.
J'allais en Angleterre,
je revenais, je faisais un show pour le CUC et ainsi de suite. Et c'était très chouette. C'est comme ça que ça a commencé. Dans le même temps, vraiment tout s'est chevauché. J'ai été appelée à la volée pour mon tout premier tournage. Et ça, c'était incroyable. Parce que je ne vivais pas encore à Paris. Je vivais encore dans le nord de la France. Et on m'a passé un coup de téléphone et on me dit « Bonjour Mélissa, c'est Philippe Guégan, je suis régleur de cascade. » Et alors là, j'étais dans un supermarché, quoi. Je me suis liquéfiée sur place, je me suis dit « Ça y est, c'est maintenant le truc que t'attends depuis des années. » Il me dit « Voilà, est-ce que t'es dispo demain ?» J'ai dit « Ouais, oui, bien sûr. Ok. » Et elle m'a dit « Bon, la production va t'appeler, on te prend un train pour l'île de Ré, tu vas là, tu prends un bus, tu ceci, et puis moi, j'irai te chercher, et puis ensuite, je t'emmène, puis ensuite, on ira répéter, et puis on tourne dans 2 jours, et puis voilà. »
Ça, c'est ton vrai premier tournage,
c'est
du
mon
coup.
Mon premier tournage.
Parce que jusqu'à présent, tu faisais du show.
J'étais vraiment du spectacle.
Du spectacle vivant. Et là, tu te retrouves propulsé du jour au lendemain. C'était quoi le tournage?
C'était « Ma famille t'adore déjà ». Super comédie française, incroyable. et je doublais Valérie Carcenti.
Ok.
C'était fou.
Et justement, là, tu parles de mince, excuse-moi, pas de préparateur ni de fixeur.
De régleur.
De régleur, pardon. Là, tu parles de régleur, tu parles de doublure. Je sais que le métier de cascadeuse se découpe en plusieurs, on va dire, métiers, sous-métiers ou métiers, je ne sais pas comment on définit ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tous ces termes?
Alors, on a le régleur de cascade qui est le big boss. Hein, ça va pas plus loin. C'est vraiment la personne qui va non seulement faire le lien entre nous et la production, qui va faire le lien quand il y en a, ce qui n'est pas le cas en France, entre le réalisateur seconde équipe et le cascadeur. Et c'est surtout lui qui va créer ou en tout cas gérer notre sécurité sur le tournage. Donc, on s'en remet 100% à lui. C'est la personne qui... c'est notre référent, en fait, okay. Pour tout.
C'est le référent qui va dire à la prod, OK, ça, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire.
Voilà, ça, c'est possible. Ça, ça va coûter tant. Ça, ça va nécessiter des CFX. Ça, ça va nécessiter un tel décor. Ça, il nous faut 3 jours de répétition. Là, il va nous falloir un spécialiste de, je sais pas, de cheval. Là, il nous faut un câbleur. Voilà, c'est vraiment... c'est le lien. C'est, on appelle ça aussi un coordinateur de cascade, donc ça englobe vraiment l'intégralité des relations entre les cascadeurs et la prod, quoi.
Et justement, parce que le métier de cascadeur, à la base, il est apparu sous une forme où on était en fait acteur-cascadeur, voire même réalisateur, avec notamment Buster Keaton, Harold Lloyd, etc., qui ont vraiment été les pionniers de ce métier-là,
tout premier,
si je peux dire. Le métier, aujourd'hui, il a beaucoup évolué. C'est quoi la position aujourd'hui d'une cascadeuse sur un tournage? Comment on est... perçu, tu as l'air de me dire qu'il y a quand même une grosse différence déjà entre des productions françaises et étrangères.
Oui, c'est clairement un autre métier. Enfin, c'est clairement deux métiers différents. La France va être très... vous avez un régleur qui va un peu porter toutes les casquettes, celle du chorégraphe de combat, celle du coordinateur des cascades, celle du régleur, et puis qui va tout gérer. Il va créer, il va gérer le tournage, il va vraiment tout faire. Et nous, on est des ouvriers, en fait. Il nous dit, ben voilà, tu te mets là, tu fais ça, tu fais comme ça, ça c'est fait, ça c'est réglé, et puis voilà.
Mais c'est là la différence entre, quand on pense à cascadeur, on va penser à une personne qui va être le méchant du film à un moment donné dans James Bond et qui saute par la fenêtre sous les impacts de balles. Et on ne pense pas forcément à ce que tu fais toi là en ce moment et ce que tu vas faire là, pour ton prochain tournage, c'est-à-dire la doublure d'une comédienne précisément. Et la suivre sur tout le long du tournage. Il doit y avoir une grosse différence d'implication sur les projets, non, dans ces cas-là?
Oui, quand on est doublure, c'est différent déjà parce qu'on instaure une vraie relation avec notre comédienne et on la suit du début à la fin. On est en charge, nous, de sa sécurité. Là, je parle de l'Angleterre parce que ce n'est pas tout à fait le cas en France. Mais voilà, on rencontre notre comédienne, on l'entraîne. Moi, c'est ce que je vais faire la semaine prochaine, par exemple. Je rencontre ma comédienne et pendant une semaine, c'est moi qui l'entraîne.
Tu l'entraînes en fait pour les scènes où on la voit de face et où il faut qu'elle fasse un petit début de mouvement pour que toi, tu prennes la suite. C'est quoi cet entraînement?
Pas encore. On commence déjà par essayer de lui faire une bonne base physique parce qu'il y a très peu de comédiennes, parce que c'est pas leur boulot, donc qui ont une base physique solide. Et là, on part sur 9 mois d'un tournage d'action et 8 mois de tournage d'action. Et on s'est dit, OK, comment cette comédienne va suivre pendant 8 mois? Donc, on essaye comme on peut de, voilà, on va rentrer, on va faire un peu de fitness, on va faire un peu de boxe, on va faire un peu de conditions physiques, de cardio pour... elle, la mettre aussi dans un état d'esprit où on se dit, parce qu'un tournage, c'est long, c'est dur, surtout celui-ci, par exemple, et il va falloir qu'elle tienne le coup jusqu'à la fin. Ensuite, on va effectivement l'entraîner pour des scènes spécifiques qui vont être créées par un chorégraphe de combat, un coordinateur de cascade, un régleur de cheval, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ensuite, on va avoir tout un travail de mimétisme un peu, où... c'est pas la comédienne qui doit nous ressembler, c'est nous qui devons ressembler à la comédienne. Et chaque personne bouge différemment.
Justement, j'ai vu sur ton compte Instagram que tu as mis une vidéo, où il me semble que c'est sur le tournage avec Leila Bekti,
ouais.
Où tu te fais complètement maquiller, ouais. Tu deviens brune. La vidéo est super. Donc, il y a toute cette phase-là un peu esthétique, on va dire, où là, toi, on va te transformer pour les besoins du tournage. Mais en fait, en amont, tu as déjà toute une préparation où tu vas regarder sa façon de bouger, c'est ça? Et tu vas la limiter.
Oui, c'est vraiment... moi, j'adore regarder ce que les comédiennes avec qui je travaille, j'adore regarder ce qu'elles ont fait dans d'autres films, parce que de toute façon, le langage du corps, c'est toujours le même, la façon dont elles s'expriment, dont elles bougent. Et en fait, ça nous permet de vraiment, vraiment... intégrer le truc et le jour du tournage de ressortir et de lui correspondre au maximum parce qu'on va avoir ce qu'ils appellent les dots, là, les points sur le visage pour tout ce qui est face remplacement. Ça, c'est encore l'Angleterre puisqu'on n'a jamais fait ça en France. Mais voilà, moi, je fais 8 mois là de points sur la figure et c'est moi qui bouge en fait.
Ah ouais, donc c'est marrant parce que du coup, ça veut dire que là maintenant, avec la technologie qu'on a aujourd'hui sur les tournages et les FX, justement, maintenant, ils sont capables ou vraiment de te faire jouer sur une scène où tu vas être face caméra pendant 5 minutes en train de te battre et derrière, modifier ton visage pour que ce soit
complètement. Et ça résout tellement de problèmes parce que le travail français, par exemple, c'est on apprend à tomber d'une certaine façon, se battre d'une certaine façon, toujours cacher un peu son visage, ces trucs. Et en fait, c'est toujours filmé. Et moi, ça, c'est le truc dont je ne peux plus. C'est filmé de dos en permanence. On filme des perruques, en fait. On ne filme pas des cascadeurs.
Ouais.
Et c'est souvent hyper serré et en shaky cam. Comme ça, on est sûr qu'on ne voit rien du tout. Et ça, c'est par manque de moyens aussi. Et puis, par manque d'imagination, mais en tout cas, par manque de moyens, on fait pas de face remplacement en France. Donc, en revanche, dès qu'on a un petit peu d'argent, et ben voilà, c'est en fait, tout est tellement plus simple. On a des points sur la figure en permanence, tout le long du tournage, et en fait, on se soucie plus de il faut être comme ça, il faut se cacher, on fait le
job. Ça simplifie énormément ton job.
Complètement.
Ah, okay.
Par contre, du coup, ça va être 100% de notre corps sur toute la partie seconde équipe, sur toute la partie action. D'où l'intérêt de mimétiser à fond. Parce que si moi, je bouge comme Mélissa bouge, on va me reconnaître en moins de 3 secondes. Quoi. Ça, c'est certain.
Ça doit faire bizarre d'ailleurs. Je change complètement de sujet, mais ça me fait penser à pour tes proches qui te connaissent et qui savent le métier que tu fais, d'aller voir un film et de te voir te faire casser la gueule comme pas possible, renverser par une voiture, sauter dans les escaliers. Ça doit être un sentiment un peu étrange.
Ça arrive à ma mère de pleurer. Ma mère a pleuré en voyant Sentinelle, ce que je peux comprendre parce que j'ai joué moi en tant que moi-même quoi. Et elle se dit mais purée, mais ça se fait éclater quoi. Alors j'ai bien expliqué, maman, c'est du faux sang, ce sont on fait tout pour de faux, mais elle a un truc de elle le vit je pense plus fort que moi. Ouais, ça c'est sûr.
Ouais, je comprends. Justement, on en parlait tout à l'heure, le film Balles perdues, c'est un film français et pour le coup t'es pas filmé de dos puisque là t'as un rôle, un vrai rôle.
Ouais,
c'est un vrai rôle. Du coup, c'est quoi ce passage entre on est juste un personnage qui se fait tirer dessus dans un film à on devient la doublure d'une actrice jusqu'au moment où en fait c'est notre rôle. C'est comment on passe de ça à ça?
C'était une volonté du réal et une proposition aussi qu'on a depuis des années de plutôt que de prendre des comédiens et de les doubler systématiquement, en fait, les cascadeurs sont aussi capables de jouer la comédie. Alors, c'est dur de nous faire confiance, on pense qu'on ne sait pas parler, qu'on ne sait pas faire, parce qu'en France, c'est très sectorisé. Ou bien tu es cascadeur, ou bien tu es comédien. C'est l'un ou l'autre. Si tu es cascadeur, tu n'es pas comédien. Si tu es comédien, tu n'es pas cascadeur. Et ils ont beaucoup de mal à sortir de ça, hormis les rôles qu'on va donner systématiquement, mais c'est très masculin, des rôles de flics et des rôles de méchants, qui sont toujours les mêmes mecs habillés en noir et qui vont se taper et qui disent pas un mot, ils ont perdu l'usage de la parole, c'est incroyable. Mais sinon, voilà, c'était une volonté du réal et du régleur, qui se connaissent depuis longtemps, de mettre un peu des cascadeurs à l'image et de se dire, voilà, ils sont capables aussi de faire quelque chose, quoi.
Donc c'est un vrai combat aujourd'hui des régleurs et des cascadeurs d'être plus reconnu dans le milieu?
Ça dépend des générations. La nouvelle génération a très envie d'avancer là-dessus, justement. Les anciens sont un peu plus froids.
Qu'est-ce que ça fait, du coup, de devenir... parce que, du coup, on est cascadeuse, enfin, tu es cascadeuse, et là, tu t'es retrouvée actrice. Ça doit être une sensation étrange, ou au final, t'es tellement déjà habituée à être sur un plateau face cam que...
Un cascadeur, c'est un comédien. Parce qu'on passe notre vie à faire semblant. Donc, quand bien même on n'est pas, on ne voit pas notre visage, on est par terre, il faut se tordre de douleur, il faut faire semblant de mourir, il faut... Enfin, voilà, donc...
Tu joues déjà.
On joue déjà. Fait, et puis, lorsqu'on va faire des prévises, qui sont quasiment maintenant systématiques, qui viennent des États-Unis et de l'Angleterre et qui sont en train d'arriver en France, merci à quelques régleurs français qui les pratiquent maintenant, quand on fait les prévises, on fait toute la scène à la place du comédien. Donc, on va devoir jouer ses lignes, sa partie, son truc, son texte. Donc, c'était pas très changeant. Après, Balles perdues, c'est... Enfin, y a très peu de scènes de comédie pour nous. C'est y a la scène du commissariat où on est direct dans le dur et c'est direct la bagarre, à part deux plans où on regarde de loin en flouté, tout va bien. Mais on est tout de suite dans la baston. Donc dès qu'on est dans la baston, on est sur notre terrain de jeu et puis ça coule tout seul.
Comment on fait d'ailleurs quand on est cascadeuse pour s'assurer de son intégrité physique, pour se préparer à ces scènes? Tu parlais de régleur. des préparations physiques. C'est quoi déjà le quotidien pour toi quand tu tournes ou que tu tournes pas?
Alors moi, j'ai eu encore beaucoup de chance. Il y a un régleur en France qui s'appelle Manu Landi, qui est le régleur de balles perdues et qui a une structure d'entraînement au Cagine à Paris, qui est une salle d'arts martiaux, et qui a une équipe de cascadeurs. C'est le seul en France qui a monté une vraie équipe solide de cascadeurs avec un noyau dur et des électrons libres un petit peu. Et moi, je suis arrivée chez Manu il y a 4 ans maintenant. Manu m'a invitée, c'était le truc le plus fou de ma vie. Et il m'a proposé d'intégrer en fait sa team. Pour moi, c'était fou parce que c'est des entraînements tous les jours.
Ok, ouais, donc ça te permet de maintenir une certaine forme physique.
Donc tu maintiens une forme physique et surtout, c'est quelqu'un qui travaille en permanence, qui continue, même lui, il continue d'apprendre, il travaille avec son équipe, on essaye de développer des choses. Et c'est la seule structure existante en France, hormis les écoles, mais une fois qu'on sort de l'école, c'est terminé. C'est la seule, vraiment, la seule structure solide où les gens s'entraînent. Et du coup, voilà, toute l'équipe du commissariat de balles perdues, c'est ma team, quoi.
C'est
mes potes, c'est mes frères. Enfin, voilà. C'est, on est vraiment, c'est un truc de famille. Et on est tous hyper proches. Et du coup, on s'entraîne ensemble tout le temps. Tous les jours, le samedi, le dimanche.
Pas de repos. Enfin,
non, parce qu'on kiffe.
Et puis toujours prête au cas où on te rappelle pour te dire demain, il faut partir pour
toujours
36 semaines.
Et ça, franchement, c'est tellement important parce que ça peut arriver comme ça. Et si tu as passé 3 mois à manger des kebabs,
ça fonctionne
pas. Ça va pas fonctionner.
Non,
ça, c'est sûr.
Pour revenir un peu en arrière, on parlait des doublures tout à l'heure. C'est quoi la relation que tu as avec les actrices que tu doubles? Tu nous as dit que tu les suivais pour te préparer une semaine avant. Et après, une fois sur le tournage, comment ça se passe?
Alors, c'est très différent d'une actrice à l'autre. Parce que chacun a son caractère. Voilà, y a des gens plus timides que d'autres, des gens plus ouverts, des gens plus investis. Il y a des comédiennes qui n'ont pas du tout, qui n'aiment pas l'action. Donc, elles confient le truc. Elles disent, bon, toi, tu fais tout. Et puis, moi, je ne fais rien.
Bonne chance. Allez.
Et moi, je suis hyper contente quand on dit ça. Parce qu'elle me dit, mais génial, c'est moi qui vais tout faire. C'est mortel. Puis, il y a des comédiennes qui sont plus réticentes et qui vont avoir plus l'impression qu'on essaye un peu de leur voler leur travail. Alors, elles essayent de tout garder un peu pour elles et elles n'ont pas envie qu'on nous voit, nous, sur le truc. C'est très particulier. C'est pour ça que sur des gros tournages, ce qui est intéressant, c'est de mettre cette relation en place de confiance et où la comédienne se dit « on travaille ensemble, en fait ». Elle a un cascadeur, en tout cas, ta doublure est là pour te faire briller. Elle n'est pas là pour te voler ton taf ou prendre la gloire. Ou non, on ne nous voit jamais, donc on s'en fout, en fait.
Il me semble que vous êtes même cité au générique à la toute fin. Enfin, il y a un combat un petit peu qui est mené aujourd'hui par les cascadeurs. Il y a quelques années, il y a 2 ans déjà, aux Oscars. Je sais qu'aux États-Unis, il y a vraiment
un
mouvement.
C'est pas encore... aux États-Unis, ça y est, c'est en place, c'est long. Ça s'appelle les Taurus. On essaye de le mettre en place en France, mais...
C'est compliqué.
C'est tellement compliqué. De toute façon, il n'y a pas d'action en France. Très, très honnêtement, il y a Inoxy Film, qui est la boîte de prod de Balles Perdues, qui se bat, gare très fort pour ramener le cinéma français, qui a les ambitions d'un Europacorp, mais qui veut ramener l'action dans le cinéma français parce qu'il n'y en a pas. On n'en trouve pas. Même quand il y en a très peu... Ça tourne toujours un peu, c'est un peu la déconfiture à chaque fois, quoi. Pas grand-chose.
Mais pourtant, c'est étonnant parce que si on regarde un peu en arrière, on pense à Belmondo, qui était un acteur qui faisait toutes ses cascades, ou à Rémi Julienne, qui est, en tout cas de mon point de vue, l'un des plus grands cascadeurs français, et qui, à mon avis, avait un rayonnement international assez fort. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, avec des têtes d'affiches pareilles, le CUC, des établissements de formation aussi importants, on n'est pas plus en France?
Moi, je pense que c'est un problème d'éducation du public. On est dans une ère de comédie. Ça fonctionne. Le public français est éduqué à la bonne comédie bien bouffonne du cinéma et ça fonctionne. Les ados vont voir des comédies, la ménagère de 50 ans va voir des comédies et en fait tout le monde est content. Et c'est le cinéma français et c'est triste. Et on a quand même la chance maintenant, je pense, avec toutes ces plateformes de pouvoir proposer autre chose. Sans ça...
Justement, toutes ces plateformes, là, on a cité tout à l'heure quelques séries ou Balles Perdues qui est produit par Netflix. Toi, ça a été une ouverture pour toi vers le cinéma étranger. Tu avais déjà fait un pas, en fait, dans les prods étrangères. Qu'est-ce que ça a apporté, ces productions?
C'est beaucoup plus... ça donne du boulot à tout le monde, en fait. Et ça, c'est très cool, parce que la cascade en France, il n'y a pas de boulot.
Ok, c'est soit du show, penser, je sais pas, le Puy du Fou, les trucs comme ça.
Il n'y a pas de boulot, voilà. Il y a beaucoup de boulot dans les parcs d'attractions, dans le spectacle vivant, le cinéma, un cascadeur au cinéma, il n'y a pas de... Okay. Très honnêtement, il y a eu 3000 élèves qui sont passés au CUC, s'il y en a 15 qui vivent du cinéma, et c'est beau, quoi.
Ah ouais, ok.
Ça, c'est des choses qu'on nous dit dès qu'on arrive. On nous dit attention. Alors, c'est encore différent pour une femme et pour un homme parce que la demande est quand même plus rare mais plus importante. Donc, ça se jauge un peu. Mais il n'y a pas de boulot. On ne va pas se mentir.
C'est un métier où il n'y avait pas tant de femmes que ça à la base, cascadeuse, j'ai l'impression.
Très peu, oui. C'est très hyper peu, macho. Hein. C'est un milieu hyper macho. C'est pareil, on ne va pas se mentir.
Comment on se fait sa place, du coup, dans un milieu très masculin comme la cascade?
Je pense qu'il faut beaucoup s'entraîner et avoir une grande gueule. Okay. Et ça, c'est hyper important parce que, en tout cas, bah, ça vient aussi des anciens, mais c'est vrai que c'est un milieu macho et... Dans les esprits, une femme n'est pas faite pour se faire éclater la tronche sur une table, ou n'est pas faite pour sauter de 20 mètres, ou n'est pas encore moins faite pour la baston. Enfin, voilà, c'est comme tout, que ce soit tous les sports de combat. C'est très, très masculin.
Il y a beaucoup d'a priori.
Il y a beaucoup de testostérone là-dedans. Donc, je pense qu'il faut avoir des gros bras, une grande gueule, et puis il faut être vraiment, vraiment passionné. En tout cas, je pense que la France est un pays où tu ne fais pas de cascadeur si tu n'es pas passionné. Parce que de toute façon, il n'y a pas de boulot. Donc, ou très peu, ou pas assez, en tout cas. Comparé à l'Angleterre, aux États-Unis, c'est tellement dérisoire que le seul truc qui te tient, c'est la passion, en fait.
Mais alors, comment on fait pour s'exporter, justement, pour aller chercher du boulot quand on est jeune cascadeur? Il y a des castings où c'est avec les régleurs, il faut les connaître pour se faire un nom.
Il y a très peu de castings, en tout cas... Très peu à ma connaissance, c'est beaucoup de réseaux et le CUC offre ça et ça c'est pour moi la meilleure chose qu'il fasse, c'est que les coachs, tous les enseignants qui sont au CUC sont des gens qui travaillent aujourd'hui en France, ce sont soit des régleurs, soit des cascadeurs qui vraiment sont dans le circuit depuis longtemps et qui bossent et ça va être en fait la première porte d'entrée dans le milieu du cinéma parce que sinon c'est hyper fermé puisqu'il y a tellement peu de boulot qu'on n'ouvre pas les portes parce que les anciens ont peur de faire leur boulot, c'est normal déjà que tout le monde galère à faire son statut d'intermittent. Donc ça c'est que du réseau, l'étranger fonctionne différemment et c'est très bien, on a la chance de pouvoir envoyer notre bande démo partout. Et ça, en fait, on est jugé sur une bande démo et c'est mortel parce qu'on dit, voilà, ça, c'est un catalogue de tout ce que je sais faire, ça dure une minute, je suis disponible, j'ai envie de travailler. Est-ce que vous avez du boulot pour moi? Et l'industrie du cinéma est tellement, tellement ouverte en ce moment, en tout cas à l'étranger, qu'il y a du boulot pour tout le monde, vraiment tout le monde. Donc ça, c'est mortel.
Ta bande démo est d'ailleurs super impressionnante. On l'a tous regardée, je pense que je l'ai montrée à tous les gens que je connais. Et c'est assez ouf. Et du coup, justement, dans cette bande démo, ce que tu dis, c'est que c'est un catalogue où on voit un peu tout ce que tu fais. Parce que si je comprends bien, quand on est cascadeuse, on a un peu des spécialités. Il y en a qui vont être acrobates sur des motos, d'autres qui vont être, je ne sais pas, sauter en hauteur. C'est quoi un petit peu les différents jobs, entre guillemets, d'une cascadeuse?
Alors ça, c'est la France encore. Parce que, et c'est là où je dis, c'est vraiment deux métiers différents. Alors, il y a la cascade physique, donc ça c'est très français. Hein. Il y a la cascade physique qui va, ce que moi je fais en France, en tout cas ce par quoi je suis passée, où on va avoir, c'est tellement riche, il y a le combat, les chutes d'escalier, les chutes de hauteur, tout ce qui va être le feu, l'eau, l'escrime, les épées, les armes, déplacements tactiques.
Ça demande vraiment un éventail de savoir qui est monstrueux, quoi.
Ouais. Et c'est pour ça qu'une école comme le campus, c'est en fait, c'est de l'or. Parce qu'on a des spécialistes dans chaque, en fait, domaine qui vont nous apporter tellement, quoi. D'avoir un mec qui est un ancien du GIGN qui va nous expliquer tout ce qui est déplacement tactique, comment on tient les armes, comment on s'en sert pour être crédible sur un plateau. Et puis derrière, on va avoir des cours de combat. Et puis derrière, on va avoir un mec qui est spécialiste du feu. Et on va repasser par tous les protocoles parce que ça, c'est un truc tellement spécifique aussi. chute de hauteur, va s'entraîner dans son jardin. Donc, parce qu'il faut un airbag, il faut un truc, il faut des nacelles, il faut tout. Donc c'est, franchement, c'est, enfin, moi, je conseille à tout le monde, mais aller au campus. Je sais qu'ils sont saturés. Je suis désolée, Lucas, tu me reconnaîtras. Mais ils sont, voilà, maintenant, ils accueillent, je crois, 80 élèves par session, ce qui est gigantesque. Moi, à mon époque, c'était bloqué à 40.
Ah ouais, c'est énorme.
Parce que la demande est énorme, mais parce que c'est Disneyland, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est Disneyland, il y a même une machine à glace à la Cantoche. C'est un truc...
C'est vraiment le parc d'attractions.
Franchement, c'est incroyable. Donc, il va y avoir toutes ces catégories-là, plus la cascade équestre, qui est encore un métier à part entière, qui est un peu à part. Et puis, il va y avoir tout le domaine de la cascade mécanique. Les voitures, les motos, en fait, tous les pilotes. Sur une percussion voiture, on va avoir un cascadeur physique qui va se faire envoler par la voiture et un cascadeur mécanique qui va conduire la voiture. Ça, en France, c'est très, très sectorisé, séparé. C'est chacun son job. En Angleterre, aux États-Unis, tout le monde doit savoir tout faire.
C'est marrant parce que c'est l'inverse de ce qu'on a sur les plateaux avec les métiers de grip, ouais. Par exemple, où aux États-Unis, c'est très sectorisé. Il y en a un qui va déplacer les pieds, l'autre qui va placer la lumière, l'autre qui va la régler. Alors qu'en France, on a les électros, les machinaux, et puis on y va. Quoi. Donc c'est marrant parce que du coup, dans le monde de la cascade, c'est complètement l'inverse.
C'est complètement l'inverse. Après, il n'est pas rare non plus qu'une comédienne ait trois doublures. Parce que justement, tout le monde ne peut pas tout faire. Si moi, demain, je pars sur un tournage où il faut faire des très grosses cascades à cheval, ou bien j'ai la chance qu'on me forme pendant ma partie de préparation et je suis capable de le faire, ou alors on se dit, bah, tiens, Mélissa, elle va faire toutes les cascades combat, physique, gunfight, voilà. Et puis, on va prendre une cascade de sa part qui va faire que la doublure équestre. Ce sera sa spécialité. Et en fait, il se couvre aussi pour tout ce qui va être accident, blessure, parce que bah, le cheval, c'est dangereux, par exemple. C'est très dangereux. Enfin, tout est dangereux, mais le cheval, c'est hyper dangereux. Et tout le monde a hyper peur qu'on passe sous le cheval. Et si moi, je passe sous le cheval et qu'on n'a personne d'autre, comment on fait? C'est la catastrophe.
C'est marrant parce que c'est vrai que tu parles depuis... Ça fait plusieurs fois que tu parles de cheval. Et à chaque fois, je me dis, c'est marrant quand même que le truc qui a l'air de te marquer, c'est les cascades à cheval. Alors que tu te fais tirer dessus, jeter du 12e étage, tu deviens une torche humaine. Ça paraît dingue de se dire, mais je comprends mieux. C'est sûr que se faire écraser par un cheval, ça va pas être le plus agréable.
En fait, la différence, c'est que... Alors moi, je suis pas du tout la bonne personne pour parler de cheval, puisque c'est pas du tout ma spécialité. Je suis montée 3 fois sur un cheval dans ma vie. Et j'aime pas les chevaux en plus. Le truc du cheval ou des animaux, ou enfin voilà, moi j'ai tourné avec des loups par exemple, je vous raconterai ça tout à l'heure, c'est qu'il y a dès qu'il y a un facteur extérieur, tout change. Moi, je me fais confiance à moi-même. Quand je saute de l'immeuble, c'est moi avec moi-même. Donc, je sais ce qui va se passer, je sais comment je vais atterrir, je sais quoi faire en cas de catastrophe, etc. Un cheval, c'est un cheval. Et si lui, il décide que ce ne sera pas comme ça, eh ben, ce ne sera pas comme ça. Et dès qu'on inclut un élément extérieur, il y a une notion de hasard qui vient perturber le tout. Et après, c'est pour ça qu'il y a des spécialistes et ils font très bien leur travail. Et c'est super.
Ouais, parce que c'est sûr que ça, on ne peut pas le préparer. On peut s'entraîner un petit peu, mais bon, sur le jour J.
Mais voilà, le jour où il y a un cheval qui panique, il y a un cheval qui panique. Moi, je me suis fait morte par un loup.
Oh, waouh.
Sur Cendrillon, là. Bonne comédie française. Je me suis fait morte par un loup, c'était pas du tout prévu. Quoi. Et c'est un... Alors, on peut mettre une cascadeuse, ça va rien changer. Hein. Je suis un être humain avec de la peau, des os, du sang, tout. Donc...
Comment ça se passe justement? Comment on se prépare à ça, à l'imprévu? Parce qu'au final, quand on est cascadeuse, on prend les risques que les autres ne veulent pas prendre, quelque part.
Bah, déjà, la notion de... On est fait pour ça, hein. On est des boucliers à comédiens, nous, en fait. Et puis, cette anecdote de Cendrillon, par exemple, c'était pas du tout prévu. Et on m'a appelé pour me dire, est-ce que tu veux le faire? C'est pas ton job, mais est-ce que tu veux le faire? Je sais pas, ouais, moi, c'était mon rêve de tourner avec des loups. Hein. En tout cas, d'être là avec des loups, c'était incroyable. Et puis, en fait, ça s'est mal passé tout de suite. Parce que, justement, c'est un facteur extérieur. Et moi, je suis allée voir le dresseur. Je lui ai dit, bon, est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir avant de commencer à tourner? Parce que je n'ai jamais tourné avec des loups. Tu ne tournes jamais avec des loups. Si c'est un ours, un truc, un tigre. Et il me dit, non, rien du tout. Je préfère que tu sois naturel. Et dans ce cas-là, de la même façon que tu as confiance en ton régleur, là, tu dois avoir confiance au dresseur. Et tu dis, bon, c'est son job. Chacun sait faire son job. Donc, je lui fais confiance. Je n'aurais pas dû.
La cascade consistait en quoi?
C'était toute une journée, pour le coup, de course-poursuite avec les loups.
Ah, donc en plus, tu te fais vraiment poursuivre par une meute de loups.
Par 6 loups affamés.
Oh putain.
Voilà, ils les ont, mais c'est clairement, ils les ont pas nourris le matin. Et il y avait des mecs avec des casseroles et des cuillères qui tapaient en fait sur les casseroles à l'autre bout de Fontainebleau pour exciter les loups, parce que les loups savent que c'est le bruit de la nourriture. Ils leur donnaient des petits bouts de marcassin, pour l'anecdote, ça m'a hyper marqué. Donc moi, j'étais prête à courir et il y avait 6 loups derrière moi, enchaînés, qu'on excitait bien au fond là-bas derrière. Et on tapait sur les casseroles, les loups tiraient sur les chaînes comme des malades pour rejoindre la nourriture. Et ils me donnaient un 3-2-1, action Mélissa, je commençais à courir, puis un 3-2-1, action pour les loups. Et là, je me suis dit, putain de sa mère, ça va être la merde. Et ça a été la merde très vite parce que c'est toujours une histoire de budget. C'est mal préparé, on met des clôtures électriques qui ne marchent pas, les loups s'échappent, parce que c'est des animaux sauvages en fait. Et il y a tellement de règles et en fait, enfin voilà, c'est encadré comme des Français.
Et du coup, il se passe quoi? Tu as commencé à courir et en fait, il y en a un qui est venu te choper la main.
Qui m'a chopé le costume, ça c'était pendant la course-poursuite. Et j'avais une autre scène où je chutais d'une pierre par terre en gros. Et ensuite, je devais rester allongée par terre et les loups me voyaient chuter et en fait venaient m'encercler comme ça. Donc, il était 7h du mat, il était mois d'octobre, t'as Fontainebleau couché par terre. Et on te dit, ben voilà, tu te mets là, et puis tu sautes et tu te mets là, tu bouges plus, pardon. Et les loups vont venir autour de toi. Alors, t'inquiète pas, hein, ils ont des marques, ils savent ce qu'ils font, ils vont pas te dépasser les marques, ils t'approcheront pas à plus de 1 mètre. Je dis, bon, c'est bon, c'est son métier, le mec, il fait tout. Tous les trucs de loups et tout. Et je m'allonge, ça a été simple, première prise, je me suis fait mordre. Donc, les loups, en fait, première prise, action, 2 secondes plus tard, le loup était dans mon cou. Vraiment, j'étais comme ça, le loup était dans mon cou. 1 seconde plus tard, il me rentrait.
Il te chique l'épaule.
Ouais, l'épaule, t'es ouf.
Comment on gère la pression sur ce genre de tournage, que ce soit ça ou même des très grosses cascades? Là, il y a, comme tu dis, le facteur que tu ne maîtrises pas. Comment on gère la pression?
On gère pas trop, hein. On gère pas trop. Enfin, on gère. Je pense qu'on est un peu fou aussi. Il y a un peu de trucs où on est hyper excité en fait. Moi, j'adore avoir peur, quoi. Enfin, c'est très bizarre à expliquer, mais ouais, j'adore avoir peur. Et parce que je pense qu'il y a un côté où tu te fais confiance aussi et tu sais ce que t'es capable de faire. Donc, quand je monte à 20 mètres pour sauter, j'ai peur, mais je sais que je vais le faire. Et je sais que ça va bien se passer. Donc, je crois que j'adore le moment, l'avant, le pendant, et puis aussi l'après où tu te dis, putain, je l'ai fait, et en plus, je vais le refaire. Parce qu'on va faire une deuxième, une troisième, et c'est mortel. Je ne suis pas sûre qu'on gère. Après, c'est, voilà, c'est du... Moi, je n'ai pas de rituel ou de truc où je respire par le nez, j'inspire par la bouche, tout ça, tu vois. Mais ouais, je pense qu'on est plus tous excités à l'idée de faire... une belle cascade et puis de se dire, ben voilà, l'image, ça fonctionne, c'est mortel, mon régleur, il est content, il est hyper... Il y a un truc aussi vachement dans ça, moi, qui vient du sport, il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est de satisfaire mon chorégraphe de combat ou mon régleur, où lui, il est fier de moi, où il me dit, voilà, c'est exactement ça que je voulais et c'est mortel. J'ai rempli mon contrat, en fait. Moi, j'ai kiffé, lui, il kiffe, tout le monde est content, le réal, en général, est content, presque 100% du temps, du coup, c'est mortel, tout le monde s'amuse, quoi.
Est-ce qu'on se dit qu'une cascade est réussie quand t'as la moitié des techniciens qui te demandent si ça va bien à la fin?
Ouais, moi, j'adore quand il y a quelqu'un qui court vers toi et qui te dit « Putain, ça va et tout !» Et en fait, t'étais juste en train de jouer ta réac ou ton truc parce que c'est le job, en fait. Il faut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est mon truc préféré. Ouais, tu sais que t'as bien fait le job si tu sens que... Et si t'arrives à bluffer ton régleur, là, t'es sûr que c'est bon. Là, c'est l'objectif ultime, celui-ci.
C'est ouf. C'est quoi, d'ailleurs, justement... Là, tu nous as raconté une anecdote qui est quand même assez dingue. Mais c'est quoi, peut-être, la plus grosse cascade que tu as pu faire ou qui t'a fait le plus kiffer?
Alors, je peux te dire celle qui m'a fait le plus peur. J'ai fait une torche humaine sur le dernier Paul Verhoeven, qui s'appelle Benedetta. Et on était en Toscane. Moi, c'est simple, j'ai peur d'un briquet. Donc, tu me fais ça, je déteste le feu. Craque une allumette devant moi, j'aime pas, ça, c'est chaud, ça brûle, voilà. Et une fois que t'es brûlé, c'est la merde. Du coup, je doublais Charlotte Rampling, incroyable, et je devais, en fait, elle se suicide Ah oui, spoiler. Voilà, elle se suicide à la fin du film et elle rentre dans un bûcher. Donc il y a un bûcher en feu sur une place publique, elle rentre dans le bûcher et elle prend feu en fait et voilà, elle se tue comme ça. Et là, c'est la merde quoi. Là, c'est catastrophe.
Et faut expliquer peut-être une torche humaine quand on fait ça en cascade. On est quand même vachement équipé, on a du stun gel. Tu peux nous expliquer un petit peu
Alors ouais, ça c'est hyper. Il y a tout un protocole de dingue puisqu'on n'est pas des Indiens, puisque les Indiens font des torches halogazeuses. Mais alors en France, puisqu'on est très bien protégé, on a une première couche. Donc on se met en sous-vêtements, on a une première couche de stun gel sur tout le corps, vraiment des pieds à la tête, dans les oreilles, dans les narines, partout, sur les yeux et tout. Ensuite, on met ce qu'on appelle un Nomex. C'est comme un pyjama, un sous-vêtement de pilote de Formule 1. Donc, on met ce Nomex qui est un enduit de stun gel aussi et qui a passé la nuit dans un congélateur. Donc, on passe un très mauvais moment. Chaussettes en Nomex, pantalon en Nomex, haut en Nomex, parfois une cagoule aussi. Et puis, une fois qu'on a mis tout ça, on remet du stun gel par au-dessus de Nomex. Ensuite, on met, si on a la possibilité, suivant le costume, une vraie combinaison de Formule 1, un Sparco. Et ensuite, par-dessus ça, on met un peu de stun gel si on peut, on met le costume. Et sur le costume, on va mettre, nous, ce qu'on appelle vulgairement la confiture, qui va être en fait un produit inflammable. Voilà. Mmh. Et on refait toutes les petites finitions, vraiment les oreilles, les narines, en fait, tous les trucs vraiment dangereux, les cils, les yeux. On n'a pas envie de se retrouver sans sourcils et tout, donc on essaye de faire un max. Suivant si on a une perruque ou pas, c'est pareil, on va avoir une perruque inifugée sur laquelle on va mettre plein de stun gel aussi. Donc on est très bien protégé pendant environ 15 secondes.
Et alors pourquoi c'était l'horreur cette scène-là?
Alors c'était l'horreur, c'était pas l'horreur, mais moi j'aime pas le feu. Ensuite,
Tu te retrouves malgré tout à accepter une scène de bûcher.
Ouais, parce que c'est génial. Non, mais parce que c'est incroyable. Parce que tu te dis, qui aura la chance dans sa vie de rentrer dans un bûcher et de prendre feu, quoi. Et en plus, t'es sur un Verhoeven. Enfin, je veux dire, ouais, tout est incroyable. Monstrueux. Sur une place publique, dans une cité médiévale en Toscane, c'est vraiment...
S'il y a un endroit où il faut faire la torche humaine, c'est là.
Clairement, tu vois. Si tu veux faire sur Alice Nevers, c'est toi qui vois. Mais là, c'était incroyable. Du coup, j'ai ce truc à faire. Et j'ai un régleur spécifique spécialisé là-dedans qui a été un de mes coachs au campus en qui j'ai extrêmement confiance, qui supervise le tout. Donc, je me dis, ça va très bien se passer. La seule problématique, entre guillemets, qu'on a eue, les SFX étaient italiens, puisqu'on était en Italie. Et ils parlaient un anglais très approximatif et évidemment pas du tout français. Sur le bûcher est entouré par 4 rampes de gaz qui, en fait, c'est du faux feu. Enfin, c'est du vrai feu, ouais. Mais du faux feu, puisqu'on n'allume pas le bûcher, mais il y a ces 4 rampes de gaz autour du truc. Et moi, je dois marcher et monter sur le bûcher. Donc, on se dit que les 2 rampes de gaz de côté et la rampe de gaz du fond sont plein pot, mais la rampe de gaz que je dois traverser, on essaye de leur expliquer que ce serait bien d'avoir le feu bas lorsque moi, je passe, qu'ils ne viennent pas me lécher le visage tout de suite, en fait, et ensuite de monter les flammes une fois que je suis passée. Et tu sens que l'information, elle passe, mais elle n'est pas évidente, tu vois. Là, je me dis, compliqué, quoi. Et voilà, donc quand tu fais 15 000 répètes, sans feu, sans, voilà, en marchant et tout, monter le truc, la scène et tout. Et je sens que la rampe de gaz, elle va venir... Et vraiment, je suis face. Et en plus, le bûcher est haut et je dois faire un grand pas. Je dois monter 2 marches sur le bûcher. Et puis, j'ai une cape. Et puis, je suis comme ça. Et vraiment, j'ai le feu face, quoi, pleine face. Et je me dis, de toute façon, il n'y a pas de répète pour le feu. Tu y vas et tu y vas. Et donc, on est le jour du tournage et je me prépare. Enfin, on me prépare, mais on te dit, on va tourner dans 15 minutes. Allez, on se prépare. Et donc, tu sors tout. Les Nomex du congèle, le stun gel, pareil, qui est au frigo et tout, machin. Tu sors tout et on est en Toscane, on est au mois de juillet ou août, il fait 45 degrés à l'ombre. Et on sort tout et on prépare. Et au bout de 20 minutes, on me dit « Ah ben non, finalement, on ne va pas tourner tout de suite. »
Alors que la préparation, déjà, doit bien prendre 20 minutes, en fait.
La préparation, ouais, prend quand même un certain temps. En plus, j'avais une perruque et tout, le costume était assez compliqué. Et du coup, là, c'est la catastrophe. Parce que tout ce qui est censé te protéger, ça a fondu. C'est fini, tu vois. plus les CFIC, tu sais pas et tout. Bref, plus tu es sur un Verhoeven, plus il y a tout qui est réuni. C'est hyper excitant, mais c'est tellement flippant, quoi. Et ça, c'est le pire moment. Le truc qu'on te dit, ah non, en fait, c'est pas tout de suite. Ou t'es en pression pendant 1 heure, 2 heures. Déjà, t'attends qu'on te dise, allez, go. Tu sais pas à quel moment de la journée ça va arriver. C'est beaucoup d'attentes. Un cascadeur, c'est tellement d'attentes. Tu sais pas à quel moment ça va arriver. Donc, t'attends 1 heure, 2 heures. Déjà, tu te lèves le matin. Tu sais que, voilà, c'est aujourd'hui. T'attends 1 heure, 2 heures. Des fois, 5 heures, 6 heures. Et puis, on dit, c'est maintenant. Là, ça y est, t'as adrénaline, tout. Tu montes, tu chauffes, tu truc et tout. Tu sors tout, tu mets le truc. T'es congelé, t'es comme ça, tu comprends pas, c'est l'été, il fait froid, t'as chaud, t'as froid. Et là, on dit, ah bah non, en fait, c'est pas maintenant. Ok, bon, bah du coup, t'es comme ça, avec ta petite serviette, tu relotes, et on essaye de remettre vite le Domex au congèle, en attendant, parce qu'on sait pas quand ça va repartir et tout. Et puis, j'ai dû attendre 1 heure, je crois, et puis on m'a fait repréparer, et du coup, j'y vais, et je sais que le Nomex, il est bien, mais il n'est pas au max, tu vois. Et c'est des, et d'un coup, tu t'inventes des problèmes parce que le coordinateur, c'est ce qu'il fait. Mais toi, tu te dis, oui, mais le Nomex, il a quand même passé un peu moins de temps que prévu et tout. Bon, bref. Et puis après, tu arrives sur le plateau et puis là, c'est Verhoeven, quoi. Tu es là, tu te dis, putain, ça y est, bon, bah, j'y suis, tout le monde. Et là, tu as un plateau de 150 personnes et tu es tout seul. Et on enlève tous les figus, on enlève tout le monde et là, la place du village devient silence de mort. Et toi, t'es comme ça. Et tu vois, là, je suis en train de le revivre, le truc. T'es comme ça. J'ai mon costume. Et j'avais mis, moi, du stun gel dans ma main. Au cas où, au moment où je passe la rampe de gaz qui m'envoie le truc, que je puisse venir, en fait, me protéger le visage, quoi, tout de suite. Et je suis comme ça et je respire. Ouh, et tout, je me dis, putain, sa mère, putain. Et t'entends 3 heures action de Monsieur Paul Verhoeven qui te dit ça. Et tu dis, bon, bah voilà, tout le monde me regarde. Il n'y a plus que moi. C'est maintenant, c'est mon truc, quoi. Et puis, en fait, je l'ai fait. Ça s'est super bien passé. On n'a fait qu'une prise. Et bah, voilà, tout était merveilleux. Mais c'est des moments où tu te dis, waouh.
Grosse pression, ouais.
Grosse pression. C'était ma plus grosse pression, je pense. Ouais, même, c'est sûr. C'est sûr parce que j'ai peur du feu, quoi. Mais c'était mortel.
Avoir peur d'un briquet et aller se mettre dans un bûcher, c'est quand même une grosse forme de courage, une grosse preuve de courage. C'est assez impressionnant, quoi.
T'as beaucoup de... Je crois que c'est un peu le truc du cascadeur, d'aller un peu affronter tes démons comme ça. Il y a beaucoup de mecs qui sautent. Bah, ce même coach-là qui a réglé le feu, il peut sauter de 30 mètres et il a un vertige de malade. Mais quand je te dis, il a un vertige de fou. Il est sur son balcon chez lui, il flippe, quoi. Il a la tête qui tourne et tout. Et en fait, une fois que tu sautes, t'es bien, quoi. Mais ouais, c'est un truc... On est un peu con, hein. On est un peu fou.
J'adore. Franchement, c'est des histoires assez incroyables, quand même. Et du coup, ça, c'est ta plus grande... C'est la cascade la plus impressionnante dont tu te souviennes. Et ton meilleur souvenir, c'est ça aussi, ou il y a un tournage en particulier que tu as énormément apprécié faire, des cascades que tu as particulièrement apprécié?
Sentinelle, pour moi, c'est un gros déclencheur parce que Julien Leclerc, c'est un super gars et parce que déjà, je jouais un petit rôle, encore une fois, et puis c'était de la vraie baston. C'était de la baston de malade. Donc ça, c'est, je crois que ça a été un gros déclencheur. Balle perdue, Sentinelle, pour moi, c'était un bon tournant. Ils se sont enchaînés quasiment. J'ai fait balle perdue et quelques mois plus tard, je crois, 2-3 mois plus tard, j'ai fait Sentinelle. Et ouais, ça a été un gros changement pour moi. Je me suis dit, ok, cascadeuse, doublure, c'est bien. Maintenant, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'aller plus loin dans le truc. Et ouais, ça a été un gros, gros tournant. Et
c'est quoi justement la suite? Parce que quand on est cascadeuse, j'imagine qu'on ne fait pas ça pendant 40 ans. Comment ça se passe du coup? C'est quoi la suite pour toi?
La suite logique, ça va être régleur. Dans la plupart des cas, on essaye, les gens essayent. Je crois qu'il y a très, très, très peu de régleuses femmes.
Parfait.
Encore une fois.
Voilà. C'est ta place qui t'attend.
Alors moi, ce n'est pas mon objectif tout de suite. Moi, j'ai envie de faire autre chose. Je n'ai pas envie de faire du réglage maintenant. J'ai envie d'en faire, mais vraiment beaucoup plus tard.
Après toutes ces années, même si au final, tu as fait beaucoup de trucs en peu de temps, au final. Ouais. Quels seraient tes conseils aujourd'hui pour une personne qui souhaiterait devenir cascadeur, qui aurait ce rêve comme toi, tu l'as eu? Ce serait quoi les conseils, les grands conseils que tu pourrais lui donner pour lui permettre d'accéder à ce rêve?
Il faut jamais lâcher parce que c'est long et si on est en France, c'est dur. Surtout quand on est jeune, Et encore plus si on a un profil spécifique. Moi, j'ai la chance de faire une taille normale et d'avoir un gabarit normal. C'est pas le cas de tout le monde. Et plus on a un profil spécifique, plus c'est compliqué. Autant un jour, on va avoir de la chance, on va tabler sur un gros truc parce qu'il nous faut une fille de 1m90, maigre et avec les... Enfin, mais c'est très rare. Ça, c'est le premier truc. Il faut vraiment pas lâcher. Il faut s'entraîner beaucoup, beaucoup. Et puis, il faut pas... Et là, je vais me faire taper sur les doigts quand il y en a qui m'entendent ça, mais il ne faut pas rester en France, en fait. Parce que là, en ce moment, toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes de l'étranger sont ouvertes. Il y a tous les syndicats, enfin, tous les cascadeurs se reconnaîtront, mais le registre qui est en Angleterre, tout ce qui est à SAG aux États-Unis, il y a tellement de demandes, il y a tellement de besoins que même les règleurs sortent des syndicats, ils prennent des gens qui ne sont plus syndiqués et des gens de l'étranger. Donc, il faut y aller. C'est là-bas qu'il y a du boulot, c'est là-bas qu'il y a de l'expérience. C'est différent, mais c'est mortel, en fait.
Ouais, profiter de l'internationalisation des prods.
Il faut y aller, il ne faut pas hésiter, il faut envoyer sa bande démo, il faut aller taper aux portes. C'est une mentalité qui est très différente. C'est compliqué de taper aux portes en France. C'est un peu délicat, c'est un peu touchy. En Angleterre, les régleurs n'attendent que ça. Ils attendent de recevoir des bandes démo, ils attendent d'avoir des gens qui sortent du lot. Et pour avoir vu les autres cascadeurs, et j'espère que ce ne sera pas sous-titré en anglais, les Français sont bons. Les Français sont hyper bons. Tous les jeunes qui passent par le CUC sont super bons par rapport à ce que moi, j'ai vu là-bas. Il y a des mecs là-bas qui sont cascadeurs, on ne sait pas comment, quoi. Vraiment. Et qui travaillent 6, 7, 8 mois d'affilée, qui travaillent même 10 mois par an que sur des super productions. Alors, encore une fois, c'est différent. Mais les Français sont des très bons cascadeurs. Et les régleurs étrangers s'accordent à le dire. Et c'est pour ça qu'on nous appelle aussi. Les Français sont vraiment de très bons cascadeurs. Les jeunes, maintenant même, je vois les jeunes qui passent au campus, mais c'est des génies, quoi. Vraiment, il y a des profils de malades qu'il n'y a pas partout. Et il ne faut pas hésiter à s'exporter, il ne faut pas hésiter à aller frapper aux portes. Il y a trop de boulot.
Super. Bah, merci beaucoup, Mélissa.
Avec plaisir.
Et à très vite, j'espère.
Bah, j'espère aussi.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On peut avoir travaillé plusieurs années sur des plateaux de tournage sans forcément avoir rencontré de cascadeurs. Alors c'est une vraie chance d'avoir des talents français comme Mélissa pour nous raconter les dessous de ce métier. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas pour Sophie, Yann et moi qui travaillons sur ce podcast, ça a été un énorme plaisir de la recevoir. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver Mélissa sur Instagram, son compte @Mélissa_Humler. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, mais aussi à laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Ça nous fait vraiment super plaisir de les lire et ça nous donne la motivation de continuer. En tout cas, merci à vous tous d'être présents. Chaque épisode, vous êtes un peu plus nombreux et ça nous fait vraiment super plaisir. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très vite.